Donc effectivement, je suis Céline Kellet de Tactique. Beaucoup me connaissent aussi sous le nom de Cello. Et en fait, je vais faire cette présentation aussi un peu avec une double casquette qui est celle d'Abeli. Dans les premiers échanges avec Tactique, il était question aussi que Abeli, qui est l'association qui promeut le logiciel libre en Belgique, interviennent pendant cette journée. En fait, Abeli, c'est une association qui est constituée que de personnes bénévoles, donc c'est difficile de venir intervenir potentiellement dans des journées comme aujourd'hui où on est sur des moments de temps de travail. Mais comme je suis par ailleurs, je suis salariée de Tactique, mais je suis par ailleurs très active dans Abeli, je vais aussi un peu prendre cette casquette-là. Et je terminerai d'ailleurs la présentation en parlant d'un projet que Abeli a mené. Dans une première partie de cette présentation, je vais revenir sur ce qu'est le logiciel libre avec un très bref, probablement trop bref, historique et voilà quelques éléments aussi sur les valeurs de ces logiciels. Et dans une seconde partie, j'aborderai les acteurs aussi qui portent la promotion du libre à l'international et aussi surtout en Belgique et en francophonie. Le logiciel libre se définit par quatre libertés fondamentales. La liberté d'utiliser, la liberté d'étudier, la liberté de partager, la liberté d'améliorer, d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage, la liberté d'en étudier le fonctionnement, la liberté de redistribuer des copies de ce logiciel, de ce programme, la liberté aussi de faire bénéficier la communauté des améliorations, ou en tout cas des versions modifiées potentielles de ce logiciel sous la même licence, terme sur lequel je vais revenir tout de suite. Alors, un peu d'histoire, comme je disais, ça va être un très très bref historique parce que le temps n'est pas infini et je préfère m'attarder aussi sur d'autres choses que ça. Pardon ?
Moi, j'ai la charge de nom.
Oui, effectivement, c'est la personne qui a pris la photo. Mais donc, j'allais mentionner que la paternité du logiciel libre revient à Richard Stallman, qui est un personnage controversé, qui en fait a eu l'idée de faire un projet de système d'exploitation libre, qui était le système GNU. Vous voyez la tête de ce GNU, c'est un peu le logo de ce système d'exploitation sur lequel je ne m'attarderai pas. Mais en fait, au travers de ce projet de système d'exploitation libre, il a inventé aussi la licence GPL, qui est la GNU Public General License, qui est la première licence libre. Qu'est-ce qui donne à Richard Stallman l'idée en fait du logiciel libre, l'idée d'un système d'exploitation avec des logiciels libres, c'est quand il travaille dans son laboratoire de recherche au MIT, à un moment donné où l'entreprise Xeros leur fournit une nouvelle imprimante et comme l'ancienne imprimante, il l'avait un peu bricolée parce qu'il avait récupéré le code de cette imprimante et puis il lui avait ajouté des fonctionnalités. Comme elle n'était pas au même étage, il lui avait ajouté une fonctionnalité notamment qui permettait d'envoyer un mail quand l'impression s'était terminée pour pas que ces informaticiens prennent la peine de descendre les escaliers si leur travail n'était pas complètement imprimé. Et en fait, l'entreprise Xeros lui dit « Ah ben non, on va pas vous fournir le code. Cette fois-ci, on va pas vous fournir le code. » En fait, dans les débuts de l'informatique, Chloé est revenue sur le fait que, à un moment donné, on achetait vraiment ces logiciels. En fait, encore avant d'acheter ces logiciels, il y avait beaucoup de pratiques de partage. Même les entreprises, en fait, voyaient pas beaucoup d'inconvénients au fait d'aller partager le logiciel d'un appareil qu'on avait vendu. En fait, les entreprises considéraient qu'elles vendaient d'abord un matériel, d'abord du hardware, une machine, et qu'en fait, le logiciel qui faisait fonctionner la machine, c'était un peu accessoire. Ça a commencé à changer autour des années 80 avec l'ordinateur personnel qui arrivait, avec le fait que l'informatique commence à prendre de plus en plus de place. En fait, on se rend compte que le logiciel devient une partie importante de ce qu'on va produire, de ce qu'on va développer. Et en fait, le logiciel prend de la valeur et à ce moment-là, les entreprises commencent à restreindre l'accès à leur code. Une entreprise qui joue un rôle particulier à ce moment-là, c'est Microsoft, puisque non seulement Microsoft va se dire « on va restreindre l'accès à du code », mais en plus, on va vendre le code en l'occurrence du système d'exploitation Windows. Ben voilà, Windows, en fait, c'est un code qu'on va vendre avec, avec une machine. Je reviens sur mes quatre libertés. En fait, dans ces quatre libertés, on va avoir des éléments qui se centrent sur l'usage. On va avoir aussi des éléments qui, en fait, témoignent d'une certaine philosophie aussi du partage et de la publication du code. En fait, le logiciel libre va vraiment s'inscrire en résistance face à ces entreprises qui restreignent l'accès au code et qui le vendent. Donc d'abord, en ce qui concerne l'usage, hein, comme je disais, bah, liberté pour n'importe quel usage, liberté d'étudier le fonctionnement, c'est aussi la liberté d'auditer le code, avec ben, des conséquences très concrètes. C'est que ben, par rapport à des logiciels qu'on va dire propriétaires, que parfois les partisans et partisanes du logiciel libre appellent des logiciels privateurs, ben, on va avoir en fait une situation où on peut aller lire ce que fait le code et donc voir en fait que le code ne va pas commencer. Voilà, on installe un logiciel de visioconférence qui n'est pas apparenté à Microsoft, mais tout à coup il va commencer à envoyer des données à Microsoft. Voilà, on ne va pas se retrouver dans cette situation-là. Ça a aussi des enjeux en termes de sécurité, puisque le fait de pouvoir aller lire le code va permettre aussi de pouvoir potentiellement détecter certaines failles de sécurité. Alors un argument qui est parfois mis en avant, c'est que, bah oui, c'est bien joli, mais en fait, dans les faits, tout le monde ne peut pas vraiment aller lire le code de ces logiciels. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, même dans les personnes qui ont les compétences pour aller lire ce type de code, bah, beaucoup en fait vont pas avoir le temps d'aller lire les codes de tous les logiciels libres qui sont publiés. Mais voilà, un argument qui est parfois aussi mis en avant par rapport à ça, c'est qu'en fait c'est un peu la même chose que les procédures démocratiques de nos États. En fait, il y a tout un appareillage juridique autour entre guillemets de nos démocraties qui en fait sont constitués de textes que tout le monde va pas forcément comprendre, que tout le monde va pas forcément connaître. Mais le fait que ces procédures et ces textes soient publics et qu'on connaisse la manière, en fait, qu'on connaisse les rouages de comment ça fonctionne, bah, contribue à garantir un certain fonctionnement démocratique. Enfin, bah, au niveau de l'usage, il y a voilà, le fait que le code peut être aussi modifié et adapté à ses usages, que ce soit pour potentiellement rajouter une fonctionnalité, comme dire à son imprimante qu'on a envie qu'elle envoie un mail quand elle a fini d'imprimer un truc. Mais aussi, par exemple, bah, voilà, dire on va partir d'un logiciel, mais on a envie de lui rajouter une toute autre fonctionnalité ou on a envie de l'augmenter d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, comme je disais, bah, y a une certaine philosophie aussi, finalement, du partage, parce que c'est des logiciels qui vont avoir une licence qui permet de redistribuer bah, des copies du programme qu'on a reçu, mais aussi des versions qu'on va potentiellement modifier de ce logiciel-là. Ce truc-là est important parce qu'en fait, on va aussi à des moments parler de logiciels open source. Et en fait, bah, parfois, on a tendance à, considérer que bah, open source et libre, bah, c'est un peu l'équivalent parce qu'on a du code qui est public. En fait, dans le logiciel libre, on va avoir vraiment un positionnement politique vers le fait de créer des logiciels qui vont être du commun, qu'on va pouvoir se partager, qu'on n'a pas dans l'open source, qui en fait voit plus l'ouverture du code par rapport au fait que, ben, en fait, un code auquel tout le monde peut avoir accès, c'est potentiellement ben, un code que, voilà, où des personnes ben, justement vont rajouter des fonctionnalités. Donc, en fait, ça va être tout bénef pour l'entreprise qui développe ce code-là, parce que gratuitement, bénévolement, ben, y a des personnes qui vont rajouter des fonctionnalités au logiciel. Et puis, parce que ça va permettre justement ben, de déceler aussi s'il y a potentiellement des failles de sécurité beaucoup plus facilement. Mais finalement, ben, l'open source est vraiment dans un côté très opérationnel, là où le logiciel libre va avoir des valeurs beaucoup plus ben, en fait, de création, de commun, de partage, quelque chose, une démarche beaucoup plus politique vis-à-vis de ces technologies. Autre confusion qu'on fait parfois, un logiciel libre est souvent gratuit, et parfois ben, on se demande, mais alors ben, les logiciels gratuits, est-ce que c'est des logiciels libres ? Il y a une différence entre du logiciel libre et ce qu'on appelle parfois des gratuiciels, c'est logiciels qu'on peut télécharger gratuitement, installer sur son ordinateur, mais dont on ne va pas connaître le code qui est derrière. Il y a tout un tas de logiciels qu'on peut installer gratuitement depuis l'Internet. En fait, est-ce que dedans, il y a une partie de code qui bah, voilà, envoie des données vers Microsoft ? Est-ce qu'il y a une partie de code qui envoie des données vers Google ? Bah, on ne le sait pas, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement Quel est le code qui fait fonctionner le logiciel? C'est par exemple l'équivalent, si vous utilisez Windows, vous avez les points .exe, bah, vous pouvez installer un point .exe, mais en fait, vous ne savez pas forcément derrière le point .exe qu'est-ce qui fait le programme. En fait, vous ne pouvez pas connaître d'après un point .exe ce qui fait le programme. Un exemple un peu en dehors de la technique qui traduit ça aussi, c'est par exemple bah, les données qu'on trouve dans Google Maps, bah, on y a accès gratuitement. On peut les utiliser pour repérer un restaurant, pour repérer le chemin qu'on va prendre. Mais en fait, c'est des données qu'on ne peut pas du tout récupérer, par exemple, pour créer nos propres cartes. Je crois même qu'imprimer, en théorie, nos propres cartes, bah, Google, normalement, n'en donne pas forcément l'autorisation. Au contraire, bah, des données qui vont être encodées dans OpenStreetMap par des contributeurs et des contributrices de ce projet-là, bah, sont des données libres, dans la mesure où on va pouvoir prendre ces données potentiellement pour faire notre propre application de cartographie, pour faire nos propres cartes. Dans le logiciel libre, ces libertés, finalement, bah, parfois on va parler de copyleft, donc un peu formellement gauche d'auteur, et en fait les licences libres, finalement, jouent avec le droit d'auteur, copyleft, copyright. En fait, le copyleft va s'appuyer sur le copyright, sur le fait que quand on fait une œuvre, on peut décider finalement que, entre guillemets, elle nous appartient. On peut partir du principe qu'on va en faire quelque chose, sauf que on va décider qu'on peut donner une licence à ce code, à cette production, qui va autoriser sa réutilisation. La journée ici est centrée sur l'aspect numérique. C'est en fait quelque chose qui s'essaime aussi ailleurs. Et vous connaissez peut-être les petits symboles des Creative Commons License. En fait, ce type de licence, bah, finalement, est un peu similaire aux licences libres des logiciels libres, mais vont s'appliquer à des œuvres culturelles, à des œuvres d'art. En haut, je vous ai mis le petit bandeau qui est sur le site de Paper et Carotte, qui est une petite BD. Je ne sais pas si certains ou certaines la connaissent. C'est en fait une petite BD qui est dessinée par David Revoy qui a fait le choix de dire « En fait, je vais faire une BD, mais je vais faire le pari que je vais être financée par les personnes qui me lisent d'abord sur Internet, sur mon blog. Et donc, je vais publier en fait mes planches sous une licence et mes personnages sous une licence qui est extrêmement permissive et qui permet en fait à tout le monde quasiment de réutiliser aussi ses dessins. Et d'ailleurs, par exemple, il y a une maison d'édition de BD qui va reprendre son travail, le publier, sans avoir formellement de contrat d'édition avec l'auteur, mais voilà, en le rémunérant, par exemple, par des dons. Enfin, en le rémunérant par des dons, en l'occurrence. Je ne vais pas m'attarder sur les différents critères des licences Creative Commons, mais voilà, c'est l'idée en fait, de pouvoir dire ben, on met à disposition des contenus qui vont pouvoir être réutilisés. Et par exemple, à la présentation que vous avez ici, et j'enverrai aussi à l'équipe de lire et écrire un peu un syllabus de cette présentation, sont sous licence libre, enfin sous Creative Commons CC BY. Donc en fait, moyennant de me citer, c'est des choses aussi que si vous êtes formateur, formatrice, vous pouvez potentiellement réutiliser avec vraiment l'autorisation de le faire ou même de le republier. Ça me fait une transition hein, dans le cours descriptif de cette intervention. Il y avait aussi la question des modes de financement. Parce que bon, bah là, j'ai pris un exemple avec la BD de David Revoy. On peut se dire, c'est bien joli tout ça, ces œuvres libres, ce logiciel libre, mais comment est-ce que bah, ça se finance, en fait, parce que voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre, tout ça. Très souvent, bah, ça va être des dons. Hein. Vous avez déjà vu probablement très souvent aussi sur, en utilisant des logiciels, voilà, une injonction potentiellement bah, à faire un don à la personne qui le développe. Ça peut être aussi des subsides, des financements publics. Chloé a mentionné tout à l'heure, malheureusement, bah, le subside Next Generation Internet, qui est un subside européen pour porter des logiciels libres, pour développer des logiciels libres. Mais voilà, qui va s'arrêter, mais en fait, c'est aussi des démarches qu'on peut avoir. Et parfois, bah, certaines institutions publiques aussi vont faire le choix de dire bah, on va créer un logiciel, en fait, on va développer un logiciel, mais finalement, bah, comme c'est une collectivité territoriale, comme c'est une institution publique, on va le publier aussi sous licence libre. On peut faire de la vente de services pour financer un logiciel. Cet après-midi, je vous parlerai de certaines alternatives. Je vous parlerai notamment de Nextcloud, qui est un logiciel qui peut être une alternative au Drive de Google ou à Dropbox, à ce genre de service-là. En fait, l'entreprise qui va développer le logiciel Nextcloud va vendre du service autour de ce logiciel, donc en fait va vendre des accès de drive à des personnes ou des entreprises ou même des États qui, du coup, bah, vont acheter du service en fait à cette entreprise, mais aussi par rebond financer le développement du logiciel. Dernière chose qu'on a parfois aussi, c'est quand même, dans certains cas, la vente du logiciel, notamment dans les magasins d'applications de Google et Apple, qui en fait font payer aussi le fait de mettre à disposition des applications dans ces magasins-là. Bah, y a des développeurs ou des développeuses de logiciels libres qui vont dire, en fait, du coup, mon logiciel va être payant au téléchargement, alors même que par ailleurs, on trouve le code qui est libre. Et alors, c'est plus stimuler les gens à finalement, qui vont se dire, par facilité, je vais passer par ces magasins d'applications-là et peut-être que je vais investir finalement 2, 3, 4 euros pour rémunérer du développement de ce logiciel, mais tout en mettant aussi le code accessible publiquement et donc avec la possibilité aussi de l'installer par ailleurs sans forcément passer par ce paiement. C'est très incomplet parce qu'en fait, on ne peut pas tout dire et je pense que si vous voulez vraiment vous intéresser à ça, il y a des ressources et des choses aussi, des ressources qui vont beaucoup mieux en parler que moi. Il y a notamment l'April qui est une asso qui promeut le logiciel libre en France, sur laquelle je reviendrai en parlant un peu des acteurs qui publie tout un livre blanc sur les différents types de modèles de financement qu'on va avoir associés au monde du logiciel libre. Voilà, il peut y avoir beaucoup plus complet. Là, j'ai un peu sélectionné certaines choses. À noter aussi que très souvent, le logiciel libre, c'est aussi quelque chose qui est développé bénévolement. Même des gros logiciels, on va avoir tout un tas de personnes autour qui bénévolement vont dire je fais un petit correctif de sécurité ou une petite fonctionnalité supplémentaire ou une petite correction d'un bug. C'est aussi parfois même des logiciels entiers qui sont développés bénévolement. Je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous utilisent VLC, le petit cône de chantier pour jouer ses vidéos et ses musiques. VLC, c'est un logiciel qui est dont le développement est dirigé et fait entièrement par une communauté de personnes bénévoles et qui, en fait, va même le revendiquer sur son site, qui se revendique être une organisation sans but lucratif et être un développement bénévole. Et donc, on a dans le logiciel libre, je disais, il y a aussi cette philosophie de partage, de repartager des choses pour créer du commun. Il y a aussi, même dans le développement des logiciels, vraiment quelque chose qui se lie au monde du non marchand, qui s'inscrit en fait contre aussi des logiques économiques qu'on a par ailleurs, qu'on peut avoir par ailleurs. J'ai mis des curseurs à l'entrée, malheureusement j'aurais dû en prendre la semaine dernière plus parce que j'ai pas pu avec la grève repasser ce matin en chercher. Mais c'est aussi des journaux qui sont accessibles en ligne. Si vous n'arrivez pas à en récupérer un là maintenant, c'est accessible en ligne. Il y a moyen aussi, nous on a la Maison de la Paix vers Flaget, de venir en chercher. Voilà quelques contributions qui, notamment en fait, relèvent un peu ces aspects dont je viens de parler. Une histoire de valeur, une histoire d'acteurs. L'idée c'était aussi que ce moment ce soit une introduction aux acteurs qui vont porter la promotion du logiciel libre. Alors là aussi, en fait, il y en a beaucoup. Donc, je vais faire une sélection et forcément, elle est aussi partielle et subjective. L'idée, c'est un peu de voir à l'international en Belgique. Je vais passer assez vite sur l'international parce que je pense que c'est en fait moi-même des associations ou des entités avec lesquelles je n'ai pas forcément de lien. Et j'expliquerai, pour moi, le logiciel libre. Et Chloé en a un peu parlé tout à l'heure. En fait, ça va être aussi une démarche de recréer peut-être certaines communautés à l'échelle plus locale. Parmi les grandes entités qui font la promotion du logiciel libre, il y a la Free Software Foundation, qui est une fondation fondée par Richard Stallman pour promouvoir le logiciel libre. C'est une fondation américaine. On a la Free Software Foundation Europe, qui est un peu son pendant européen, qui fait partie du réseau de la Free Software Foundation, mais qui est indépendante juridiquement et financièrement, qui mène pas mal d'actions plutôt à des niveaux politiques, qui s'adresse plutôt à des journalistes, à des politiciens, qui a mené des campagnes d'ailleurs assez importantes. Je disais tout à l'heure, voilà, le logiciel libre, des modèles économiques, ça peut être aussi à des moments des subsides, et notamment des subsides de fonds publics. Ils ont toute une campagne autour de la question public money, public code. En fait, s'il y a du code qui est rédigé, qui est écrit, financé par de l'argent public, en fait, il n'y a aucune raison que finalement ça devienne un truc qui est la propriété d'une entreprise à la fin. Et on peut tout à fait imaginer, on pourrait imaginer que ce soit en fait obligatoire d'aller le publier aussi de manière ouverte et libre. J'ai mis aussi le petit logo de la Root of Freedom. Depuis récemment, normalement, Proximus est obligé. Alors, je ne sais pas exactement si la transition s'est déjà effectuée, mais jusqu'il y a peu, en fait, on était obligé avec Proximus d'avoir certaines boxes agréées pour son accès Internet. En théorie, maintenant, on peut avoir beaucoup plus de diversité d'appareils. C'est aussi une campagne que cette Free Software Foundation Europe a portée pour dire, en fait, ces machines qui nous donnent accès à Internet, celles-là aussi, enfin, on parle de logiciels libres souvent sur des ordinateurs, mais en fait, ce type de matériel aussi, ça doit pouvoir être ouvert et on doit pouvoir avoir une liberté et une interopérabilité. Je reviendrai aussi sur ce terme que Chloé a déjà mentionné. J'ai brièvement mentionné l'April, donc là, de l'international et de l'Europe, on se rapproche vers la France. Pas encore en Belgique. L'April, c'est une grande association française de promotion du logiciel libre qui, pareil, mène pas mal de campagnes, notamment des campagnes contre la gestion des droits des DRM, donc en fait la fermeture de la gestion des droits des œuvres culturelles, le fait par exemple qu'on achète finalement potentiellement un DVD avec le droit de l'utiliser s'il a un petit logiciel qui est compatible avec certains types d'appareils, mais pas forcément avec tous. Une autre grande campagne de l'April, c'est par exemple la vente liée. Je disais, Microsoft a été très actif dans le fait de faire, de vendre son logiciel. En fait, dans n'importe quel magasin quasiment où vous allez à peu près être obligé d'acheter, quand vous achetez un ordinateur, d'acheter Windows avec, ou Mac. En fait, quand vous achetez un ordinateur avec Windows, vous payez le prix de l'ordinateur, vous payez aussi le prix de la licence de Windows avec. Et donc, si votre idée, c'est cet ordinateur de dire, moi, je veux pas de Windows, je veux le mettre sous un système libre, une distribution Linux, par exemple, en fait, on paye un coût d'un logiciel qu'on ne va jamais utiliser. C'est une association qui est centrée en France. Après, comme la France, c'est très grand et qu'elle est un peu à l'échelle de tout le territoire, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font à distance aussi. Ils ont beaucoup de listes mail, aussi de rendez-vous de travail en visio. Et parfois, même dans les listes mail, il y en a certaines qui sont accessibles, même sans être adhérents ou adhérentes. Il y a notamment une liste par rapport aux questions liées à l'éducation, si ça intéresse des formateurs ou des formatrices. Où, il y a beaucoup de profs, de gens du milieu éducatif, y compris d'ailleurs, il y a quelques Belges aussi qui sont dessus, qui vont discuter de logiciels libres dans le domaine de l'éducation. C'est aussi Nassau qui fait une petite émission radio si vous aimez les podcasts et que ça vous intéresse d'écouter quelques trucs sur le logiciel libre. Ils font une petite émission aussi chaque mardi de 15h30 à 17h, mais qui est écoutable en podcast, avec plein de choses en lien avec... Tout à l'heure, Chloé a mentionné Framasoft, et en fait, quand on parle des acteurs qui portent le libre, même en étant belge, en fait, c'est difficile de ne pas mentionner Framasoft. Chloé a mentionné les Framadet, Framaform, Framapad, ce genre de choses. Si vous avez utilisé ces logiciels, c'est tous des logiciels qui ont été popularisés finalement par Framasoft, qui au départ était une association dont l'action s'inscrivait plutôt vis-à-vis des enseignants, notamment des enseignants de mathématiques, pour de l'usage du logiciel libre dans les écoles, mais qui, un peu après les révélations de Snowden, s'est dit, en fait, c'est intéressant aussi de proposer ces outils-là au grand public. Et là, je m'arrête sur peut-être un petit élément un peu pédagogique, entre guillemets. Quand on parle de logiciel libre, on peut parler de logiciels qui sont installés sur un ordinateur qu'on va utiliser, comme j'ai mentionné VLC, comme Firefox, comme la suite LibreOffice, par exemple. On va aussi, à des moments, parler de logiciels qui vont s'installer sur des serveurs. Tous nos drives de Google, de Microsoft, la plupart de ces services en fait, qu'on utilise et qui sont devenus incontournables, c'est des logiciels qu'on n'a pas seulement sur son ordinateur, mais qu'on a aussi... En fait, qui vont être disponibles sur le réseau et qui donc en fait sont installés quelque part sur des machines de cette entreprise. Ce que à l'usage, ça a tendance à pas trop se voir et c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel je reviendrai dans les difficultés cet après-midi. Mais voilà, en fait, Framasoft va se dire, bah, on a des logiciels libres qui peuvent faire des services web auxquels les gens peuvent accéder via le web, et nous, on va les installer sur nos serveurs qui sont dans un data center. Je crois que leurs serveurs sont dans un data center en Allemagne, sauf erreur. Et on va pouvoir y accéder, et tout le monde va pouvoir y accéder sur son ordinateur pour avoir des alternatives aux outils collaboratifs, notamment des GAFAM. Chloé a mentionné les chatons aussi, donc chatons pour collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ouais, c'est... on ne s'en doute pas quand on parle de chatons. En fait, bah, comme disait Chloé, à un moment donné, Framasoft s'est rendu compte que bah, ils avaient de plus en plus de gens qui venaient utiliser leurs services. Et en fait, les personnes de Framasoft se sont dit bah, « Non, on ne veut pas devenir le Google français. » Donc en fait, on ne veut pas recréer un gros silo de données, recréer une forme de monopole en France. On va plutôt essaimer, on va plutôt construire un collectif de plusieurs prestataires, que ce soit des associations, des entreprises, des coopératives, potentiellement des personnes aussi individuelles qui, à des moments, ont du temps et l'envie bénévolement aussi de proposer des choses, qui veulent faire de l'hébergement, qui installent ces logiciels libres, qui partagent nos valeurs de respect de la vie privée, du libre, et on va construire ben, un collectif qui référence en fait tous ces fournisseurs de services, tous ces prestataires, et dans lequel aussi, hein, vous voyez, il y a « Je cherche un chaton ». On peut aussi utiliser finalement bah, ce collectif, hein, le site de ce collectif, comme un portail pour aller trouver des alternatives en les cherchant par type de logiciel ou par fonctionnalité, si on cherche de la visioconférence, si on cherche de l'édition collaborative, si on cherche n'importe. Par proximité aussi, et en un sens, ben, là, on se rapproche un peu de la Belgique, puisque je montrerai qu'il y a deux membres de ce collectif en Belgique aussi. Là, dans l'encadré, vous voyez que ça parle un peu des AMAP. Ben, l'idée, c'est aussi, finalement, ces logiciels-là, ben, ça peut être maintenu, installé et maintenu par des prestataires à proximité. On peut chercher par autres critères aussi, potentiellement le modèle économique, potentiellement si c'est une entreprise, si c'est une association, le mode de financement aussi, est-ce que ça va être des cotisations, est-ce que ça va être, que j'ai pas mentionné d'ailleurs sur ma slide tout à l'heure, que ça, est-ce que ça va être voilà, des dons. Voilà. On peut utiliser ce site aussi pour chercher vraiment concrètement des prestataires et des services. Et ici, je rebondis en fait sur quelque chose que disait Chloé par rapport à la décentralisation et par rapport à l'interopérabilité. En fait, très souvent, bah, le logiciel libre va venir avec le fait aussi de décentraliser, d'avoir une multiplicité de fournisseurs de services, de prestataires techniques qui vont proposer le service, et aussi une certaine interopérabilité. Un exemple qu'en général on connaît bien, qui en fait peut un peu concrétiser ce truc-là, c'est l'email. Là, vous avez basiquement des patates qui communiquent entre elles, avec une qui est Gmail, une autre qui va être Skynet, hein, les adresses de Proximus, ProtonMail, que Chloé a mentionné aussi tout à l'heure, hébergeur suisse, et puis d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins, mais je vais y revenir en tout cas sur deux d'entre eux. En fait, l'email, ben, si à un moment donné, Gmail ferme son service, bon, il y a beaucoup de gens qui vont être ennuyés, mais en fait, on peut retrouver un service équivalent en allant ailleurs. Si Proximus décide de fermer Skynet, ben en fait, on a aussi des alternatives. Et aussi, on est dans une situation où quelqu'un qui a une adresse en @skynet.be chez Proximus peut tout à fait communiquer avec quelqu'un chez Gmail. Donc en fait, contrairement à ce truc de centralisation dont Chloé parlait, on n'est pas obligé de que tout le monde soit sur une même plateforme. Je ne vais peut-être pas rester très longtemps dessus, mais... puisque Chloé en a déjà un peu parlé. Mais voilà, si vous voyez ce schéma, enfin, cet ensemble de schémas, ben, on a la plupart en fait, de nos plateformes propriétaires, bon, là, c'est dans le contexte de la communication et de la messagerie instantanée, mais la plupart du temps, en fait, on a une entreprise, une entité qui, finalement, ben, centralise tout le service. Là, typiquement, WhatsApp, ben, si on veut communiquer avec les gens qui sont sur WhatsApp, on doit s'inscrire auprès de... sur la plateforme WhatsApp, qui est détenue par Meta, donner son numéro de téléphone, etc. Voilà, c'est un mode de fonctionnement qui, évidemment, bah, rend captif, qui, évidemment, crée bah, des situations de monopole. Je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, puisque Chloé en a déjà beaucoup parlé. En fait, on peut tout à fait imaginer des services de messagerie instantanée qui, comme l'email, se configurent de manière décentralisée et interopérable avec différents fournisseurs de services, différents prestataires techniques qui peuvent offrir un hébergement et des gens qui vont pouvoir communiquer entre eux. On peut avoir aussi, et c'est un peu la figure ici, des logiciels libres, mais qui ne vont pas forcément être interopérables. Et par exemple, si certains ou certaines d'entre vous connaissent Signal, qui est beaucoup présenté comme une alternative à WhatsApp, et effectivement, ça n'appartient pas à Meta, c'est détenu par une fondation sans but lucratif qui a vraiment au cœur de ses valeurs la vie privée. Mais en fait, c'est un logiciel qui fonctionne de manière centralisée. Et donc, même si ça m'intube par une fondation sans but lucratif, qu'en principe, c'est un montage juridique aussi qui, aux États-Unis, empêche que ce soit racheté, qu'on en fasse n'importe quoi. En fait, c'est aussi quand même un prestataire qui, même avec du logiciel libre, va contenir plein de données et opère finalement d'une manière où, si à un moment donné, ce service n'existe plus ou si ce service change de main, en fait, on est dépendant de cette plateforme-là et qui, accessoirement, fonctionne sur les numéros de téléphone, donc en fait détient aussi les numéros de téléphone de tous les utilisateurs et utilisatrices du service. Fondation, je disais qu'il est américaine aussi, c'est en principe un montage juridique qui empêche qu'il se passe quelque chose de néfaste. Maintenant, comme disait Chloé, depuis que Trump a été élu, réélu, il fait parfois un peu n'importe quoi, donc, à voir aussi comment ça se fait. À noter que Signal aussi a déjà dit que si en France la loi narcotrafic passait, en fait, Signal potentiellement se retirait de servir son service en France parce qu'en fait, ils ne veulent pas implémenter les backdoors que demande la loi narcotrafic. Et donc, de nouveau, on est dans une situation où on a en fait beaucoup de dépendance à un prestataire, même quand c'est du logiciel libre. Je reviens sur mon tour des acteurs. Et donc, Abelli, on a l'April en France, on a Abelli qui est l'association de promotion des logiciels libres en Belgique, qui est une association beaucoup plus petite que l'April. Et comme je disais au début de l'intervention, aussi avec que des personnes bénévoles. Mais c'est néanmoins une asso qui se mobilise pour faire connaître finalement les enjeux liés aux logiciels libres au travers de la participation à des événements ou à des festivals. Traditionnellement, Abelli participe à Esperanza pendant l'été. Là, ce printemps, on a participé à Printemps 2075, qui est un festival créé par des étudiants et des étudiantes d'agronomie à Gembloux. C'est l'idée un peu de faire connaître et de prendre part aussi à des événements pour faire connaître ce logiciel libre. C'est une association qui organise à des moments des événements, un peu des journées comme maintenant, qui s'appellent des associés libres, où plusieurs projets en lien avec le libre peuvent être présentés. Elle a une action aussi par rapport au milieu scolaire et vis-à-vis du respect du RGPD en milieu scolaire. S'il y en a parmi vous qui constatent que les écoles de vos enfants, par exemple, vous obligent à utiliser certains outils de Google et Microsoft, qu'en fait, normalement, le RGPD devrait empêcher d'utiliser, Abelli peut se placer aussi comme tiers anonyme pour des plaintes vis-à-vis du RGPD. Avec les limitations évidemment que Chloé soulignait tout à l'heure par rapport à l'application du RGPD, mais c'est quelque chose en fait que Abelli peut porter et qui a déjà été utile à des gens aussi. Abelli est aussi partenaire dans différents projets. À titre personnel, je suis beaucoup le site de la face cachée du CLIC qui se fait notamment avec la Ligue des familles, avec les CMA. Je ne vais pas plus m'attarder que ça parce que je vois que le temps tourne quand même pas mal. Je parlais des chatons et du fait qu'il y avait des chatons en Belgique. Nos deux chatons en Belgique, c'est Nubo et Domaine Public. Domaine Public, c'est un hébergeur qui existe en fait depuis plus d'une vingtaine d'années, dont notamment Denis, qui animera aussi des choses tout à l'heure, a quand même beaucoup contribué à fonder et à porter ce projet-là. C'est un hébergeur qui s'adresse plutôt à des associations, à des collectifs, parce que l'idée, c'est de proposer des hébergements web avec la possibilité de mettre un site web, la possibilité d'héberger des boîtes mail associées avec le nom de domaine, avec le nom @, le nom du site, qui va proposer des espaces cloud aussi, sur base de ce logiciel dont je reparlerai cet après-midi, qui est Nextcloud, qui peut faire un équivalent à Google Drive, à Dropbox. Domaine Public va proposer des espaces cloud pour des associations, pour des collectifs, avec la possibilité de gérer ses comptes utilisateurs, un peu comme on a une version, enfin, comme quand on a une version payante de Google ou de Google Drive ou de Microsoft. Nubo, qui est une coopérative et qui est un acteur beaucoup plus récent dans le paysage belge, et qui propose, en fait, qui s'adresse plutôt à des personnes individuelles avec un service mail, un service cloud, mais sans forcément avoir besoin d'aller acquérir un nom de domaine, d'avoir un site web. L'idée, c'est plus de s'adresser un peu à monsieur et madame tout le monde. Et je disais, bah, finalement, avec ce logiciel libre, avec cet aspect de décentralisation, bah, parfois, il y en a qui parlent d'AMAP. Il y a aussi, finalement, des relations de proximité. Et c'est un peu ce que disait, finalement, Chloé à la fin de son intervention, de dire, bah, en fait, avoir un prestataire qui va proposer du service quelque part dans le monde, mais dont on ne va pas forcément partager les valeurs culturelles, bah, c'est peut-être pas intéressant non plus. En fait, c'est plus intéressant de recréer des communautés locales. Là, vous voyez le début du petit dialogue, une coopérative comme pour les fermiers. Bah oui, en fait, quand on parle d'alimentation, quand on parle d'agriculture, ça paraît très logique à des moments de dire on va finalement œuvrer et se mobiliser pour avoir bah, des circuits courts, pour avoir des relations de proximité. Dans le numérique, c'est beaucoup moins intuitif, mais en fait, ça participe aussi de cette démarche-là. Tactique, bah, puisque voilà, on est de Tactique, je vais quand même un peu présenter Tactique aussi. Donc, Tactique, on va soutenir une action vers le libre au travers de, au travers de prestations informatiques. On fait du développement de sites web, on fait de la migration de données, on maintient des serveurs, on maintient aussi du parc informatique. On fait une série de tâches techniques liées à, oui, à la transition, migration par exemple de mail depuis Google jusque chez, par exemple, chez Domaine Public qui héberge, qui, pour une association qui décide de partir de Google et d'aller héberger ses mails chez Domaine Public. Aussi sur les aspects d'accompagnement et de formation, voilà, à l'usage un peu de tous les jours, ben voilà, on a un nouveau cloud, peut-être voilà, on rencontre un problème, on ne sait pas comment faire quelque chose, ou bien des formations plus formelles. Et bah, on déploie un volet un peu éducation permanente autour d'ateliers et de la publication du journal Curseur que vous pourrez encore lire. Mais évidemment, bah, faites des prestataires, enfin des acteurs, il y en a plein. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un dans la salle est membre du BXLUG, que c'est vrai, je n'ai pas pensé à mettre le focus dessus, mais par exemple, le BXLUG va être un groupe d'utilisateurs de Linux, donc système d'exploitation qui utilise, qui est basé sur du logiciel libre et open source, et qui potentiellement peut aussi accompagner des personnes à prendre en main bah, ce système d'exploitation et aussi le, à des moments l'installer, puisque par exemple le BXU va organiser ce qu'on appelle des install parties ou des Linux copy parties, des moments où en fait les gens se réunissent et des personnes qui veulent se faire installer Linux viennent avec leur ordinateur et des gens qui s'y connaissent leur installent un Linux. Une plateforme sur laquelle je voulais un peu attirer votre attention en termes de bah, voilà, quels sont les acteurs autour de ce logiciel libre, c'est la plateforme Open Minds, qui a été réalisée dans le cadre d'un projet européen assez récemment et sur laquelle bah, Abeli a beaucoup travaillé pour justement tout ce qui est encodage de données concernant des acteurs qui portent le libre en Belgique. Et en fait, ça recense autant des gens qui vont, bah, comme Domaine Public ou Nubo, proposer concrètement de l'hébergement de mail, de cloud, des prestataires qui font plus de la formation ou de la sensibilisation, et puis aussi, par exemple, bah, des gens qui font, là, vous avez l'atelier cartographique, bah, qui font des travaux de cartographie, mais avec des logiciels libres. Des graphistes aussi qui travaillent avec du logiciel libre. Mais donc cette plateforme recense pas mal d'acteurs en Belgique qui peuvent accompagner à différents niveaux en fait une transition vers du logiciel libre et référence aussi des logiciels qui peuvent fait, bon cette plateforme est plus spécifiquement enfin s'adresse plus spécifiquement au secteur socio-culturel et mais voilà du coup référence une série de logiciels aussi plus pensés pour le secteur les usages du secteur socio-culturel mais qui en fait est utile aussi pour tout le monde voilà et des formations et en fait si Abeli a été demandé aussi pour faire cette partie là du projet Open Minds ben C'est aussi parce que Abeli maintient déjà une carte en fait d'acteurs qui utilisent du libre en Belgique, avec qui bah là il, voilà, il y a un peu plus en fait que sur la plateforme Open Minds, justement parce que c'est plus large, mais on va avoir aussi bien bah, des gens qui proposent du service que des assos usagères de service, aussi des écoles qui vont utiliser du service. J'ai pas mentionné, mais Tactique bon, accompagne surtout des associations et un peu le monde militant aussi à l'adoption de ces outils-là, mais en fait on accompagne aussi des écoles à faire cette transition-là. On a 4 écoles d'art à Bruxelles qui, dans leur pratique, essayent de progressivement avoir du logiciel libre à différents stades de la transition. Cette carte, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait à jour, qui peuvent être complétées, mais voilà, ça donne aussi elle peut donner un aperçu, et vous aurez l'adresse pour y accéder, de bah, tout ce qui se fait, parce qu'en fait finalement parfois on a l'impression que le logiciel libre et ces pratiques-là, c'est bah oui, et de fait c'est minoritaire par rapport à tous et toutes les entités qui utilisent des GAFAM, mais en fait il y a quand même ce monde-là qui existe, et parfois en fait bah, c'est un peu la démarche qu'on a aussi voulu mettre dans cette journée avec cet après-midi l'intervention d'SMEA et d'IEB aussi pour parler de bah, comment ces associations utilisent ces outils. C'est qu'en fait, bah, parfois, on ne va pas toujours chercher directement un prestataire technique ou un graphiste qui va travailler avec du libre, mais parfois, on va peut-être aussi vouloir discuter, finalement, avec d'autres personnes, d'autres associations ou d'autres collectifs qui intègrent ces pratiques, et d'avoir aussi bah, un moment de partage de bonnes pratiques, si on est engagé dans la transition, ou même de, voilà, de partage d'expériences, pour se dire est-ce qu'on s'en serait ou pas, et vous utilisez quel logiciel, et vous êtes chez quel prestataire, vous êtes chez quel chaton, voilà. Et je vais clore là-dessus, je suis désolée, j'ai l'impression okay. d'avoir beaucoup dépassé, mais
non,
je crois que j'ai commencé tard
grave.
Aussi.
Non, mais c'est pas grave, on ne dit pas au revoir à Céline, puisqu'elle va reprendre après. Et
voilà.
Merci beaucoup, je pense qu'on peut quand même.